D'accord.
Ouais, pour ma part, ben, j'irais vraiment s'impliquer. Comme tu as dit, il y a beaucoup de monde qui ont délaissé les organisations plus libertaires pour s'en aller vers l'implication dans les associations étudiantes. Ça peut avoir des revers. Par contre, ça peut avoir le point positif que les anarchistes vont amener leurs idées au travers de leurs associations étudiantes aussi, ce qui est un peu le revers de la médaille. Ce que les anarchistes peuvent faire au travers des associations étudiantes, ben vraiment, comme elle l'a dit, promouvoir la démocratie directe, mais au-delà des assemblées générales aussi, tu sais, vraiment dans les actions, dans les manifestations, puis juste pour toutes les décisions qui sont prises au sein du corps des grévistes, promouvoir la démocratie directe. Nous, à Saint-Laurent, on l'a vu souvent, quand on a bloqué notre propre cégep, ça faisait pas longtemps qu'on était en grève, mais déjà les gens s'organisaient en faisant des mini-assemblées en groupe et tout, puis c'était vraiment intéressant de voir ça. Sinon, des activités d'éducation populaire, bien entendu, comme aussi tu l'as dit, les imagistes dans les manifestations qui bloquaient les gens, tu sais, organiser de l'éducation populaire sur la diversité de tactique, sur plein de choses qui sont présentes dans la société. Puis, en ayant, ben là je parle de Saint-Laurent en tant que tel, en ayant vraiment un gros bastion à la base qui était anarchiste, les discussions dans les activités d'éducation populaire s'orientaient souvent, tu sais, les anarchistes apportaient leur point de vue, ce qui, puis les autres apportaient leur point de vue, puis ça faisait vraiment un beau foisonnement d'idées, puis ça donnait lieu à beaucoup de contestations face à notre conditionnement dans la société, puis face à voir la grève d'un point de vue de type plus normal, voir la grève vraiment à l'interne, de personnes qui s'impliquent et qui ont vraiment une critique directe de cette grève-là. Ouais, d'autres activités que l'éducation populaire pour vraiment... tu sais, comme quand on est rentré en grève, en fait, il y avait un bastion qui s'impliquait vraiment beaucoup directement dans les assemblées générales. Suite à l'entrée en grève, vraiment pour la gente et tout, ça a fait que ces gens-là, ce sont le cercle de gens qui s'impliquent, se sont agrandis, puis ça rend le processus beaucoup plus limpide, je dirais. Puis il y a beaucoup plus de personnes qui s'y impliquent. Fait que ça fait des plus beaux débats, puis plus d'idées, puis tout.
Ouais. Merci. Oui. À mon avis, ça, c'est indéniable que les anarchistes ont participé à une radicalisation du mouvement étudiant. Ils ont aussi, pour les nouveaux nouvelles, militants, ils ont aussi apporté les valeurs des mouvements sociaux qui existaient déjà, comme le féminisme, la diversité des tactiques, le souci des sans-papiers, des étudiants internationaux, étudiantes internationales. Les anarchistes, d'après moi, ont aussi su par leur discours, soit en assemblée générale, soit dans les journaux, dans les tracts, mettre le doigt sur les contradictions du capitalisme, puis présenter la hausse des frais de scolarité comme une lutte globale qui est reliée à d'autres enjeux qui sont plus profonds, qui sont liés au système, plutôt que seulement une lutte sectorielle sur un enjeu particulier. Ça s'est fait aussi un appel à la solidarité avec les autres mouvements sociaux de la base, que ce soit des centres des femmes, des comités de logement, des groupes communautaires, plutôt qu'uniquement avec des centrales syndicales et avec les fédérations étudiantes, comme beaucoup de personnes nouvellement impliquées l'ont suggéré au cours des assemblées générales, par exemple. Aussi, comme ça a été souligné, là, ça a été un peu un problème. Évidemment, tout le monde est super occupé pendant la grève. C'est devenu comme si on avait un choix entre les structures syndicales existantes, donc les associations étudiantes, la classe, puis les groupes anarchistes affinitaires ou les groupes qui fonctionnent par plateforme. Donc, ça devient difficile de s'impliquer dans un contexte de grève. Ça fait en sorte aussi que certains groupes qui existaient avant la grève sont devenus un peu éclatés, vu que les gens sont allés s'impliquer un peu partout durant la grève.
Je pense aussi qu'il est important de rappeler que les étudiants anarchistes qui se considèrent anarchistes à l'intérieur du mouvement s'affichent souvent pas en tant que tels. C'est vraiment à l'interne, on peut retrouver différentes positions, différentes tendances, mais de généraliser puis de ramener tous les étudiants, l'implication, c'est qualitativement dur à retracer. Comme on est tous un peu éparpillés dans différentes structures qui opèrent de manière différente. Il n'y a pas un affichement clair. Je veux dire, on ne se promène pas avec un name tag « Allô, on est anarchiste, puis on est dans le mouvement ». C'est aussi ce pourquoi je pense qu'on réussit à être marginalisé dans les médias, ce qui trouve c'est assez facile, comme on n'est pas identifié, puis je ne crois pas que ça serait qu'on a autrement besoin de s'identifier, de le crier à petite tête sur tous les toits qu'on est anarchiste, mais ça sert aussi à les médias de pouvoir dire que c'est une frange isolée et radicale, alors qu'elle est à l'intérieur de toutes les structures, puis de tous les établissements, puis aussi de toutes les grandes centrales syndicales étudiantes. Comme il y en a aussi beaucoup à Concordia, par exemple, on est tous affiliés à la FOLC, malheureusement. Mais tous ceux qui se sont impliqués à l'intérieur du mouvement étaient beaucoup plus de tendance libertaire dans leur mode d'organisation puis dans la manière dont ils concevaient la lutte. Donc, ça a polarisé un peu les débats, puis ça nous écarte un peu des fois de nos objectifs.
Moi, je pense que les anarchistes sont complètement dépassés par la base en ce moment, par le mouvement lui-même. Je pense qu'on peut parler d'un certain souffle, genre libertaire, là, qui plane là, sur le mouvement étudiant. Mais ce qu'on observe là, facilement, c'est que la plupart des... Parce que les anarchistes, sont nombreux et nombreuses à se définir comme étant anarchistes, libertaires, ceci, cela. C'est très vague, tout ça reste très vague. Pour moi, il n'y a pas de front, hein, littéralement, là, anarchiste tel quel. Il n'y a pas de mouvement anarchiste tel quel. Pour moi, c'est des groupes assez isolés, sur des groupes d'affinité ou des organisations qui sont assez isolées, qu'il y a une misère là, réelle là, à justement trouver un moyen d'intervenir, trouver un moyen d'étendre la lutte. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que justement, si je compare avec en 2005, comme je l'ai dit tantôt, j'ai participé en 2005 à ce qui était déjà alors, là, ce qui était encore il y a deux mois, la plus grande grève de l'histoire du mouvement étudiant, qui n'a plus mais absolument rien à voir avec celle de 2012. Et en 2005, en fait, on avait observé justement une radicalisation massive des participants et participantes au mouvement de grève. Mais surtout, la politisation se faisait comme des positions de principe. Par exemple, la lutte de 2005 nous a amené à réfléchir à au-delà, comment faire la grève, comment radicaliser notre existence, nos positions politiques, etc. C'était des positions de principe. Parce que maintenant, les gens se radicalisent sur des positions de lutte. C'est-à-dire, par exemple, sur la question de la négociation. En 2005, quand on tenait la ligne de dire négocier, c'est de se faire fourrer, on avait l'air de parfait, là, on avait l'air de vraiment être. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. Mais aujourd'hui, en 2012, si on dit négocier, c'est se faire fourrer, les gens l'ont compris à travers la lutte. Donc, c'est ça qui est vraiment important. On voit qu'il y a une politisation massive, une radicalisation accrue qui se fait à travers justement ces formes de lutte, que ce soit dans les assemblées générales, que ce soit justement dans le mode d'organisation, dans les rapports entre les gens, ça s'observe. Mais cela dit, je conclue là-dessus, il faut faire attention en tant que personne anarchiste, critique, révolutionnaire, à justement ne pas se dire que puisqu'il y a des assemblées générales, puisque notre mouvement, puisque le mouvement de grève, on observe qu'il a justement des ramifications libertaires, là, comme qu'il a une influence. Il ne faut pas non plus se cantonner, il ne faut pas non plus s'exalter, il ne faut pas non plus se dire, il ne faut pas dans le fond rester là sur justement des positions de principe. Là, je pense que le rôle des anarchistes, des personnes critiques, c'est d'essayer de réfléchir, de penser et d'agir pour toujours aller au-delà, toujours essayer de radicaliser même nous, nos propres positions, même nous, notre propre mouvement, pour ne pas essayer justement d'attirer les gens vers une culture qui reste fixe et puis qu'à ce moment-là, ça devient une contre-culture complètement intégrée au capitalisme. D'ailleurs, on le voit très bien à travers certaines critiques du mouvement anarchiste qu'on peut faire à travers la contre-culture politique.
Dans le terrain, moi, après la grève de 2005, on était une gang justement à forte tendance libertaire, à mort, anti-autoritaire, qui avait pris la gageure de faire les rires sur un comité exécutif d'une association étudiante de l'UCO, c'est-à-dire la GUCO, en se disant que si l'organisation bureaucratique est capable de tout mettre en branle pour que les membres puissent prendre le contrôle sur le mouvement, ça va marcher. Ça a été un échec patent. Et à cette grève-ci, pour la préparer, c'est peut-être une chance pour nous. En Outaouais, il n'y a aucun groupe, aucun milieu militaire à tendance anarchiste, radicale, quoi que ce soit. Sans être méchant avec personne, mais pour ceux qui connaissent l'Outaouais, le plus radical qu'on a, c'est des personnes de tendance marxiste-léniniste. cette fois-ci, ce qu'on a fait comme stratégie, c'était vraiment plus groundé sur la base. Avant même le début de la grève, il y a eu du gros travail qui a été fait d'éducation populaire, de un, c'est quoi la hausse des frais de scolarité, pourquoi que ça vient, comme on l'a dit tantôt, essayer de voir ça dans un ensemble global, parce que c'est pas juste la facture étudiante qui est attaquée, c'est le néolibéralisme, le capitalisme et compagnie. Et ce que ça a donné, c'était débile. Je veux dire, je n'aurais jamais attendu voir ça en Outaouais, ce qui s'est vécu depuis le début de la grève, c'est-à-dire mi-mars, si je ne me trompe pas. Nous, on a eu, dans le fond, deux bassins militants et militantes, ceux qui étaient rassemblés à l'entour du cégep de l'Outaouais, qui est contrôlé par nos amis NL, et ceux et celles qui étaient plus dans le bassin de l'Université du Québec en Outaouais et la population générale. Parce qu'une des premières décisions que le comité de grève de l'UQA avait prise, c'est de dire on est ouvert à l'ensemble des militants et militantes. Tu n'as pas besoin d'être étudiant, étudiante en grève. N'importe qui veut s'impliquer dans la lutte est le bienvenu, et le bienvenu dans l'organisation des actions, dans les décisions et dans la mise en branle de ces trucs-là. Je pense que la part qui a pu être, faite par le petit noyau plus radical, c'était justement le côté éducation populaire. On va s'entendre en ce moment à l'UQO et au cégep de l'Outaouais, les associations étudiantes sont moribondes, voire mortes. Ils ne font rien, donnent même pas de fonds par moment aux grévistes pour être capables d'organiser des activités par les boss. Donc, ça a été très, très groundé par les membres de la base, même pour les questions financières. Mais ce que ça a donné comme résultat, ça a été particulièrement laborieux. Les premiers comités de grève qu'on avait, le discours ambiant majoritaire était « la direction, c'est nos amis, la police, c'est nos amis, il faut négocier avec l'État ». Après plusieurs rencontres de comités de grève qui ont duré par moment 4-5 heures où tout le monde voulait se lancer des chaises, on en est venu à prendre des décisions très concrètes sur la diversité des tactiques, la démocratie, l'action directe, la non-collaboration avec l'État, les forces policières et même les médias poubelles qu'on a dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que ça, une fois que ça a été fait, tous ces débats-là, toute cette réflexion-là, les amarres ou les tendances libertaires n'avaient même plus besoin d'être là pour que ça se poursuive. En ce moment, si vous venez d'une manif en Outaouais, pour sûr, il va y avoir un caucus pendant la manif pour voir ce qu'on fait. Tout essaye de se faire par démocratie directe, même dans la rue. Et surtout, c'est que ça a donné que tous les petits chefs qu'on avait au début, qui étaient les belles personnalités qui parlaient le plus fort, se sont fait tasser. Donc, avant, les conseils de grève qu'il y avait à l'UQO, tu avais deux personnes fortement influençables qui faisaient la présidence tout en donnant leur opinion et en faisant des résumés de ce que le monde venait de dire à leur avantage. Et après 3-4 rencontres, ces personnes-là ont d'eux-mêmes également se sont tassées de là et ont laissé le pouvoir au comité de grève qui, par exemple, est toujours animé par une personne différente puisqu'on respecte les tours de parole. Donc, je pense que ça a été ça, la part, puis on continuera tantôt, mais la part était l'éducation populaire dans l'organisation, dans les moyens d'action et surtout sur les principes d'action qu'on voulait mettre en branle. On n'a jamais rien vécu de très, très radical. Avant le 8 mars de cette année, il y avait, à ma connaissance, jamais eu de manifestation sans trajet. Toutes les manifestations étaient en collaboration avec la police. À partir du 8 mars, il n'y a plus eu aucune collaboration avec les forces de l'ordre. On a commencé à ce moment-là à dire « c'est bien plate, on fait des manifs quand on veut, comme on veut, on fait des occupes, on rentre partout. » Contrairement un peu comme qui était dit tantôt, je veux dire, même les amants ont été dépassés de voir ce qui se passait. Moi, je me souviens de la première action qu'on a posée, où ce que le monde en disait « on va aller bloquer le plus grand boulevard de la ville, on est sans, ça va être le fun. » Les amants, en fait, en y pensant bien, on n'est peut-être pas certain. Puis Chris, le monde l'a fait, puis ça a marché, puis ça a parti un mouvement de « on est capable, on a ce pouvoir-là ». Donc, c'est la beauté de la chose d'être dépassée en ce moment.
On se met un peu dans la même bonne idée. À l'UQO, pour la majorité de ceux et celles qui s'impliquent, c'est notre première grève, c'est notre première implication sociale. Donc, très peu de gens connaissent leurs droits, connaissent ce que la la police a le droit de faire, ce que la police n'a pas le droit de faire. Tout ce contexte légal-là de « t'es un policier, t'as pas le droit de faire ci, je suis un manifestant ou une manifestante, j'ai le droit de faire ça ». Donc, ce que le mouvement un peu anarchiste a apporté, ça a été justement cette éducation-là à nos droits, à ce qu'on pouvait faire et jusqu'où on pouvait aller. Parce que dans plusieurs esprits, faire une manifestation en bloquant une artère, ça se faisait pas. Donc, cette éducation-là a été faite. Et en même temps, on était capable de voir une gradation des tactiques. Donc, étant donné que c'est les premières manifestations pour beaucoup de gens, de commencer graduellement avec des actions de plus en plus radicales et en ne laissant pas aller la radicalisation, parce que c'est très facile de dire « Ah, oh, OK, on est arrivé à ce point-là de radicalisation, donc on peut arrêter là, on est rendu assez radicalement, on est capable d'aller encore plus loin, de mettre encore plus de pression. » Donc, le côté anarchiste de notre mouvement a été capable de toujours pousser un peu plus loin le bouchon jusqu'à l'occupation de Lucot le 19 avril.
Welcome back to Off the Hour on CQT 90.3 FM. We'll hear now the Smash the State report from Dan Killer at Sound FM Radio in Waterloo, Ontario. In this report, Dan discusses Bill C-309, a conservative private member's bill, which could see people go to jail for up to 10 years just for wearing masks in demonstrations.
Canadian anti-masking bill imminent. Proposed Concealment of Identity Act nears approval. A new bill aimed at making the wearing of masks illegal during riots or unlawful assemblies is now closer to becoming law in Canada. Bill C-309, known as the Concealment of Identity Act, was introduced by Conservative MP Blake Richards in November 2011 in the wake of the Toronto G20 protests and the Vancouver Stanley Cup riots. Richards' constituency is Wild Rose, Alberta. The short title of the proposed act is Preventing Persons from Concealing Their Identity During Riots and Unlawful Assemblies Act. It seeks to amend Section 65, Punishment of a Rioter, and 66, Punishment for Unlawful Assembly, of the Criminal Code by adding provisions for those wearing masks. In effect, it will dramatically increase potential penalties for rioting and unlawful assembly while wearing a mask. The text of the bill can be seen here on the Government of Canada webpage. In February 2012, the bill passed its second reading in Parliament and has now been referred to the Standing Committee on Justice and Human Rights. After this, it goes before the House of Commons for a vote. In February, Liberal and Conservative parties voted unanimously in favor of the legislation. The Bloc Québécois, Green Party, and NDP cast 96 votes against the bill. In early May, Justice Minister Rob Nicholson announced that the Conservative majority formally supports the legislation, meaning it is all but assured of becoming law. Police forces across the country have also declared their support for the bill, as well as the Downtown Business Improvement Association of Vancouver. The bill would create two classes of offense. Those who incite a riot wearing a mask without lawful excuse face an indictable offense with prison terms of up to 5 years. For those who participate in an unlawful assembly while wearing a mask or disguise to conceal identity, the charge could be an indictable offense or a summary offense. Under the summary offense, penalties range up to 6 months in jail and fines up to $5,000. Critics note that the Criminal Code already has laws against wearing a mask, quote, with the intent to commit an indictable offense. The actual charge, disguised with intent, is a subsection of Section 351, possession of break-in instrument, and was originally intended to punish those who committed robberies while wearing a disguise. Section 351.2 states, everyone who, with intent to commit an indictable offense, has his face masked or colored or is otherwise disguised, is guilty of an indictable offense or liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years. Police claim the burden of proof is too high under Section 351.2, with the need to prove a criminal intent in intent in wearing the mask difficult to prove in regards to protesters. They are especially in favor of the proposed bill as they believe it will deter militants from wearing masks, thereby making their task of identifying people from video and photographs much easier. Reformist groups such as the Canadian Civil Liberties Association have stated they do not believe the proposed amendments would survive a constitutional challenge as they violate the Charter of Rights and Freedoms. NDP MP Charmaine Borg said that the bill takes away an individual's right to demonstrate anonymously. An individual is not necessarily going to commit a crime just because he or she is wearing a mask or at a riot. It is reasonable to think that the person just wants to remain anonymous and protect his or her identity. Unquote. And from Wikipedia, even, critics agree that commonly one covers their face to avoid photographs being uploaded to the internet and causing personal or professional problems. Others have pointed out that faces are often covered with kerchiefs in response to police use of chemical weapons, such as pepper spray and tear gas. Continuing, activist groups have stated that the bill poses a severe threat to the freedom of assembly. In the era where social media brings people together, the technologies the government is involved with, like facial recognition software and video surveillance, are an all-time high and are actively being used to identify individuals at protests who may just not wish to be identified. Unquote. In New York, an anti-mask law from 1845 is still used to arrest and charge protesters who wear masks. It was introduced after farmers resisted their eviction and wore leather masks. In Germany, the wearing of masks was banned in the 1980s. In both cases, protesters still wear masks on certain occasions. Several Occupy Wall Street protesters have been arrested for violating the ban on masks. In Germany, Black Bloc militants have altered their uniform black clothing to include hoodies, baseball caps, and sunglasses. Where they are a strong enough force, many militants in Germany still wear masks. It should be noted that the new Canadian legislation criminalizing the wearing of masks would only be used when a protest has been declared a riot or unlawful assembly. Police would not be empowered to preemptively arrest those wearing masks. Declaring a protest as an unlawful assembly is commonly used in Montreal and is used to legalize mass arrests, a practice commonly seen during the annual March Against Police Brutality in that city, and more recently during the Quebec student protests. Unlawful Assembly, Section 63 of the Criminal Code of Canada. An unlawful assembly is an assembly of three or more persons who, with intent to carry out any common purpose, assemble in such a manner or so conduct themselves when they are assembled as to cause persons in the neighborhood or the assembly to fear or on reasonable grounds that they A, will disturb the peace tumultuously, or B, they will by that assembly needlessly and without reasonable cause provoke other persons to disturb the peace tumultuously. The punishment for a summary conviction is imprisonment of up to 6 months, a $2,000 fine, or both. A riot, in Section 64 of the Criminal Code of Canada, is, quote, a riot is an unlawful assembly that has begun to disturb the peace tumultuously. Rioting is an indictable offense for which imprisonment of up to 2 years can be imposed. And as an amendment to this article, Zigzag notes, on May 10th, 2012, Conservative MPs on the House of Commons Justice Committee voted to extend the maximum jail time for the proposed criminal code amendment to 10 years, claiming it is now consistent with the punishment for, quote, wearing a mask with intent to commit an indictable offense. 10 years for wearing a mask when the police decide it's a riot, like at the June 26, 2010 dance party that they declared illegal, for instance. Even the National Post notes how this bill, this anti-riot law, needs a mask to hide its flaws. It's already covered. And in a final one, much as they embrace the tough-on-crime imagery, the government weakens its own argument for such measures when it seems to be acting impulsively and without adequate time, preparation, or thought about the details of its legislation or its potential impact. It also makes itself look downright silly. And of course, this is looking at the not only the bill to ban wearing masks at riots or in protests, but also the bill that bans people that receive certain pension plan payments, or that they changed the law so people can attack petty thieves or survival thieves. Or, you know, they introduce a law to empower police to spy on almost anyone for anything. And this is the National Post saying these things. That's not much of a big... I mean, it's Kelly McFarland, who regular fact-checking is about as good as... that's something that's not very good. And everyone in the world knows it. Oh, Canada's tough on crime policy. Well, but whatever. He actually managed to write a bit of a piece there that critiques the Harper government, even the National Post. Wow.
A public service announcement.
What you should know if you get detained by the police at a student demonstration. Note that this is not legal advice and we are not lawyers. This is a recommendation. Upon arrest, the only information you have to give the police is your name, date of birth, and address. You have the right to not answer any further questions. You should always have a lawyer number with you. Once you've been ticketed, contest your ticket by signing it, indicating the date, and checking not guilty. Don't write anything else, no explanations, and don't indicate a motive. Scan your ticket and email it to poitradenis@gmail.com. That's poitradenis@gmail.com. With a phone number you can be reached at, as well as your version of the facts. If you don't have access to a scanner, you can fax it to 514-289-1729. Next step, mail it to the municipal court. Stay safe.
You have the right.
Welcome back to Of the Hour. For our last segment, we'll bring you to the streets of Montreal, where CKUT reporter Nicole Ebert was out last Thursday in one of the neighborhood Casserola demos in the Mile End. She brings us this report.
Moi, je considère que c'est vraiment important de s'arranger pour que l'avenir d'un pays puisse avoir de l'éducation. C'est la moindre des choses.
So I'm Emily, and I've graduated from McGill in philosophy last year, and I'm here because basically what I'm seeing around me is a un effritement des droits, en fait. So the government not only is not listening, but he's taking away rights from the students. But when you take rights away from the students, you're taking them away from every citizens. And so I'm here to tell them to fuck off.
I dropped out of school for the education system twice, and 3 months ago I really had no bone in this fight, but it's gotten to a point where, like, there's no logical argument for what's going on, like, on behalf of the police or the government, and, like, I think it needs to come to an end, and, like, an actual dialogue needs to be opened up between both parties, and shit needs to get resolved.
I joined up in Villeray, on the corner of Jerry and Saint Denis, and I think it's pretty much the best way to meet members of your community that are supportive of the same same sort of thing. And we've traveled all the way down here to join all the other demos that are happening in the city tonight.
Mon nom est Simon Cloutier. Je suis sociologue de formation. Moi, je suis ici parce que je pense qu'il est de mon devoir de résister au terrorisme d'État qu'on est en train de vivre au Québec. Je pense qu'il faut absolument faire le lien entre le gouvernement actuel et ses accointances avec la mafia et la façon dont il gère ce conflit-là.
Ouais, bien sûr.
Moi, je pense que c'est grave à ce point-là.
Ouais.
Fait que c'est pour ça qu'il fallait absolument que je résiste à ce terrorisme d'État-là en venant soutenir mes concitoyens, que j'ai vu hier d'ailleurs se faire arrêter, et ça m'a révolté.
Moi, j'ai commencé à être un peu fâché contre le gouvernement libéral là, depuis vendredi passé, principalement, là, depuis qu'ils ont fait passer cette loi spéciale-là une drôle de façon. Là, on dirait que c'est pas trop démocratique. Puis là, c'est un peu ça. Là, on proteste, on manifeste, on exprime notre opinion, là, ce qu'ils essaient de nous empêcher de faire. Là.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
That does it for this edition of the Hour, produced by Montreal's Community News Collective. My name is Stéphanie Clermont. I've been your host tonight. Thank yous are due to all those who make educational and inspirational radio here at CKUT possible. And again, we here at CKUT are more than 50 organized volunteers. We have not given our plans to the police and will not be asking for permission for this broadcast. We stand in solidarity with everyone on strike. See you in the streets. For more information on anything you heard tonight, or if you would like to participate or support news produced by and for the Montreal community, please contact CKUT's Community News Department at 514-448-4041, extension 6788, or news@ckut.ca. Also, follow us on Twitter at twitter.com/CKUTnews. Stay tuned. Native Solidarity News is...